L'heure du crime sur RTL.
Ce soir, une émission spéciale. Alors, vous allez dire une de plus sur l'affaire Grégory. Non, mais c'était quand même important parce que jeudi dernier, on a appris, on s'y attendait un petit peu, en tout cas, qu'on a appris que la cour d'appel de Paris, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, avait pris la décision d'annuler la garde à vue de Muriel Boll en 1984. C'est cette fameuse garde à vue où elle accusait Bernard Laroche d'avoir kidnappé le petit Grégory en sa présence. Mais il faut remarquer que la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas annulé en revanche les déclarations faites par Muriel Boll aux gendarmes avant le début officiel de cette garde à vue, et elle n'a pas annulé non plus les réponses de Muriel Boll aux questions du juge d'instruction de l'affaire, M. Jean-Michel Lambert, interrogatoire intervenu quelques jours plus tard, où elle continuait, avant de se rétracter effectivement quelques jours plus tard, avant de se rétracter, eh bien, elle avait confirmé ses accusations contre son beau-frère d'avoir donc kidnappé le petit garçon. L'avocat de Muriel Boll, maître Jean-Paul Tessonnière, qu'on entendra d'ailleurs dans un instant, a dit qu'il était satisfait de cette décision rendue parce que on devra, dit-il, à l'avenir laisser tranquille Muriel Boll, qui ne pourra plus être accusée de quoi que ce soit dans cette affaire. Mais les avocats des époux Villemain sont également satisfaits parce que, disent-ils, l'enquête n'est pas bloquée et elle peut donc se poursuivre. Mais pour aller où ? Nous allons essayer de voir ce soir avec les invités de l'heure du crime où on en est précisément dans ce dossier qui est celui d'une des plus importantes affaires judiciaires de ces 35 dernières années. Nous faisons le point sur l'état de l'affaire avec trois acteurs importants du dossier. Maître Thierry Moser, donc l'un des avocats de Christine et Jean-Marie Villemain. Monsieur Jean-Marie Bonnet, qui était procureur général à Dijon en 2008, il est maintenant procureur général à Montpellier, mais en 2008, c'est lui qui avait relancé l'affaire en évitant la prescription, et c'est lui aussi qui avait lancé donc de nouvelles recherches ADN, ce qui avait permis d'exclure un certain nombre de fausses pistes, et nous en reparlerons ce soir, certainement aussi avec l'ancien journaliste d'RTL Alain Hamon, mais qui est l'actuel spécialiste des faits divers, qui contribue régulièrement à l'heure du crime et qui a suivi cette affaire, on va dire, allez, presque depuis le début. C'était jeudi dernier, la cour d'appel de Paris prononçait l'annulation de la garde à vue de Muriel Boll de 1984. Écoutez tout de suite la réaction de son avocat, maître Jean-Paul Tessonnière. Il s'exprime au micro RTL d'Alice Moreno.
On n'ennuiera plus Muriel dans un dossier dans lequel elle n'a strictement rien à voir. Et les quelques déclarations de Muriel qui subsistent, de toute façon, n'ont pas beaucoup d'importance dans la mesure où plus personne ne soutient que ce qu'elle a déclaré à ce moment-là correspond à la réalité. Les Villemain présentent actuellement un scénario complètement différent. L'accusation elle-même, depuis des années, a abandonné la thèse correspondant aux déclarations de Muriel. Bien sûr qu'elle est une des victimes de ce dossier. Elle est persécutée depuis 35 ans maintenant, sans interruption, avec un point culminant qui se situe 35 ans après l'assassinat de Grégory. Donc elle souhaiterait encore une fois qu'on la laisse tranquille.
Voilà donc la réaction de maître Jean-Paul Tessonnière, tout de suite après l'annonce de cette décision. Alain Hamon, bonsoir.
Bonsoir.
Si je vous pose la question de savoir si vous avez été surpris jeudi dernier, vous me dites quoi ?
Non. Non, je dis que j'ai pas été surpris. Bon, enfin, il y a peut-être pas que moi qui n'ai pas été surpris. Ouais. Mais il se trouve que à la fin du mois d'octobre l'année dernière, je mettais un point, pas final, puisque cette histoire est à tiroir, mais je mettais un premier point final au chapitre de mon prochain bouquin, qui n'est pas sur l'affaire Grégory, mais le chapitre de l'affaire Grégory.
Oui.
Et je posais la question de savoir ce qui serait fait des déclarations, à l'époque, de Muriel Boll, mais des déclarations avant sa garde à vue.
Et ben voilà.
Et elle avait tout dit.
Et, oui.
Et la deuxième chose que je disais, et les déclarations chez le juge Lambert. Qu'est-ce que la cour d'appel va en faire ? Oui. Parce que c'est, contrairement à ce que maître Tessonnière, mais c'est son rôle, vient de dire, ça reste aussi important que ce qu'elle a dit pendant sa garde à vue. Mm-hmm. D'autant que, puisque les avocats de Muriel Boll jusqu'ici jouaient sur le fait que Muriel, dans ses dénégations suivantes, avait dit « Ils m'ont forcé, les gendarmes m'ont forcé. » Oui. Mais là, avant, Il n'a jamais été question qu'elle ait été forcée. Ouais. Et dans le cabinet du juge Lambert, il n'a jamais été question non plus qu'elle ait été forcée. Donc on ne peut même plus sortir cet argument-là.
Alors, je ne veux pas préjuger de ce que va nous dire maintenant, dans l'instant, maître Thierry Moser, du barreau de Mulhouse, qui est l'un des avocats des parents Villemain, avec ses confrères, maître Marie-Christine Chastan-Morand et maître François Saint-Pierre. Bonsoir, maître Moser.
Bonsoir, Jacques.
Alors, je suppose que vous êtes aussi satisfait de cette décision.
J'entends à l'instant la déclaration de mon confrère. Je trouve que cette déclaration est très peu fondée, très peu fondée et très audacieuse. Il est vrai que la garde à vue, ça fait à peu près deux pages de procès-verbal, a été annulée. Mais M. Hamon vient de dire l'essentiel, à savoir que, premièrement, avant d'être placé en garde à vue, Muriel Boll s'exprime comme témoin, simple témoin. Et à ce moment-là, elle met en cause gravement son beau-frère Bernard Laroche. Ensuite, séquence numéro 2, elle est auditionnée comme en garde à vue. Ça, c'est alors effectivement la phase qui est annulée. Ça fait à peu près deux pages. Mm-hmm. C'est trois fois rien. Mm-hmm. Et enfin, troisième séquence, Muriel Boll se présente à nouveau devant le juge d'instruction le lundi 5 novembre 1984. Elle est témoin et elle va encore réitérer les déclarations à l'encontre de Bernard Laroche. Par conséquent, ce qui est important dans ce dossier est toujours là dans le dossier, ça subsiste, et je dois dire que cet arrêt de Paris ne nous gêne en rien. Au regard de la recherche de la vérité, nous sommes, mes deux confrères et moi, très satisfaits de cet arrêt. Ceci posé, je voudrais apporter une précision qui est la suivante et qui est importante. Nous sommes convaincus, mes confrères et moi, ainsi que Christine et Jean-Marie, nous sommes convaincus, un, que Bernard Laroche a enlevé l'enfant, deux, que Muriel Boll se trouvait dans le véhicule avec sa belle-sœur au moment de l'enlèvement de l'enfant. Mais troisièmement, nous pensons que Muriel Boll, gamine de 15 ans, a pu ne pas réaliser que Laroche participait à la commission d'un crime. Par conséquent, l'élément intentionnel, disent les juristes, du crime n'est pas constitué, même si sa présence matérielle dans la voiture nous paraît certaine.
Et donc, maître Tessonnier...
Excusez-moi, je termine.
Je vous en prie.
Par conséquent, il est évident que nous n'allons absolument pas insister pour que, bien au contraire, pour que Muriel Boll soit à nouveau mise en examen. Nous ne le souhaitons pas, je le dis clairement, non pas parce que nous doutons de sa présence dans la voiture de Laroche, auteur du kidnapping, mais parce que nous pensons que cette jeune fille n'avait pas la connaissance de l'action criminelle à laquelle elle était mêlée. Voilà notre point de vue, je le dis clairement.
Oui, donc ce que je m'apprêtais à vous dire en vous coupant, pardonnez-moi, mais c'est que maître Tessonnier avait bien vu que une des conséquences de l'annulation de cette garde à vue, c'est que, comme il disait, on n'ennuiera plus Muriel Boll, en tout cas
chapitre-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si la garde à vue n'avait pas été annulée, ce qui est négligeable dans ce dossier, même si tel était le cas, ce que je dis à l'instant s'avère exact, l'élément intentionnel, la connaissance de la participation à une action criminelle n'est pas démontré, et dans ces conditions, les poursuites à l'endroit de Muriel Boll n'étaient plus possibles.
Alain Hamon, quelle question vous posez sur l'avenir du dossier ? Il y a encore beaucoup de questions sans réponse, mais pourra-t-on trouver des réponses aux questions qu'on se pose ?
Ben d'abord, je ne suis pas certain que les magistrats de Dijon entrent dans l'explication que vient de... Enfin, dans les souhaits, presque, que vient de nous donner maître Moser. Je ne suis pas certain que les magistrats de Dijon veuillent passer, si je peux m'exprimer ainsi, Muriel Boll par pertes et profits. J'en suis pas certain. Il y a une chose qui n'a jamais...
Qu'est-ce que la loi permettra ? La bonne question, c'est qu'est-ce que la loi permettra après cette décision ?
À minima, non-dénonciation de crime, peut-être, quand elle s'est aperçue de ce qui s'était passé.
Ouais. Sa mise en examen de 2017 a été annulée également.
Toutes les mises en examen ont été annulées. Ouais. Alors justement, pour ce qui est des autres mises en examen, À mon avis, d'autres vont intervenir. Mmh. Je pense.
Oui.
C'est ce que veulent faire les magistrats de Dijon, pour tout dire. Pour en avoir parlé avec des gens qui enquêtent pour ces magistrats.
Oui.
Ils veulent revenir sur, alors peut-être pas exactement les mêmes mises en examen, pour ne pas tomber dans un éventuel piège juridique, mais ils ont bien l'intention de revenir dessus. Et pour ce qui concerne Muriel Boll, je viens de parler à minima, Maître Moser peut certainement nous en dire plus.
Oui.
Mais il y a une chose qui n'a jamais été expliquée dans ce dossier, et pour cause, puisque l'autopsie du corps du petit Grégory a tellement été
difficile,
qu'on ne sait pas. Mais on a parlé à une époque qu'il aurait pu être endormi à l'aide d'une piqûre d'insuline.
Oui,
quid de cette piqûre d'insuline et qui l'aurait faite ? Car là aussi, à une époque, on disait que ça pouvait être Muriel, puisqu'elle avait appris
pour
à
sa
les
mère,
faire
mais
pour sa maman
malade.
Elle
a dit qu'elle l'avait appris plus tard.
Voilà.
Enfin bon.
Voilà.
On va demander tout de suite la réaction de Maître Moser. Sur ce point précis, avant de vous poser d'autres questions, Maître.
Oui, j'ai bien écouté l'excellente explication de M. Hamon. Alors, d'accord et pas d'accord, il est vrai que si on avait pu démontrer un rôle actif de Muriel Boll, par exemple l'administration d'une piqûre à ce malheureux Grégory, il est évident qu'à ce moment-là, la démonstration d'un rôle actif de Muriel aurait été apportée. On a fait des investigations là-dessus, on a fait des expertises, tout cela malheureusement ou heureusement n'a rien donné. Et dans ces conditions, le doute profitant à la personne soupçonnée, on ne peut pas affirmer qu'elle a joué un rôle actif dans la réalisation du crime. On ne peut pas affirmer qu'elle était consciente du fait que Laroche était en train de réaliser une action criminelle. Par conséquent, je pense que Muriel Boll n'est pas poursuivable, mais je vais maintenant dire ce qui est essentiel aux yeux des époux Villemain, c'est ceci. Nous pensons que nous sommes en présence d'un crime collectif. Nous pensons que Bernard Laroche est l'un des rouages. Nous pensons que Bernard Laroche est celui qui enlève l'enfant et qui ensuite remet l'enfant à d'autres personnages. Et ce sont ces personnages qui organisent la mise à mort, l'exécution de ce malheureux enfant. Et c'est cela qui nous intéresse. Nous voulons arriver à confondre, si faire se peut, les auteurs de l'acte d'assassinat. Voilà comment se situe notre réflexion à l'heure actuelle.
Oui. Et donc vous pensez donc clairement que l'instruction peut se poursuivre. Ça veut dire simplement que la page est tournée sur l'incertitude qui régnait jusqu'à présent dans ce dossier pour vous.
Je ne crois pas que s'agissant de Muriel, on puisse aller plus loin. Je ne pense pas qu'on puisse la confondre et l'incriminer d'un acte positif.
Mais en dehors de Muriel Boll, d'une manière générale...
En dehors
générale,
de Muriel Boll, je pense qu'il y a encore un champ à labourer. Je pense qu'il y a des éléments déjà très précieux qui ont été collectés.
Oui.
Je pense que les investigations permettent de cibler un couple et je pense que les investigations à venir, dans les mois à venir, permettront, je l'espère, de fortifier la suspicion dirigée vers ces personnages-là.
Donc pour vous, ce qu'on pourrait appeler la bataille procédurale, elle est terminée ?
Elle est terminée, elle est révolue, et c'est en ce sens que cet arrêt de Paris vient consolider la procédure, en ce sens que nous n'avons plus besoin de batailler pour des arguties juridiques, je dirais presque des peccadilles. Maintenant, nous allons de nouveau entrer enfin, dans le fond de la discussion et dans la recherche des investigations à réaliser pour parvenir, si possible, à un heureux résultat, c'est-à-dire la vérité.
Ça veut dire qu'au nom de Jean-Marie et Christine Villemain, vous, leurs avocats, vous allez faire des demandes d'audition, d'expertise, ou simplement c'est l'enquête qui va reprendre sous la direction de M. Bon.
Oui, Jacques, vous avez raison, nous avons fait différentes demandes. Ces demandes étaient congelées dans l'attente du résultat du contentieux procédural. Ce contentieux procédural étant terminé, étant achevé, nous pouvons maintenant reprendre l'examen de fond. Et je pense que la Chambre de l'instruction voudra bien totalement ou partiellement faire droit à nos demandes d'actes.
Alors, j'ai encore deux questions à vous poser, parmi beaucoup d'autres. Peut-être que Alain Hamon en a aussi, mais ça, on verra ça dans un tout petit instant après la prochaine pause. Mais d'abord, est-ce que vous pensez que de nouvelles analyses scientifiques pourraient encore permettre des avancées dans ce dossier ?
Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que des mesures de nature scientifique pourront nous aider. Je pense qu'il nous faut également faire des investigations, je dirais, classiques. Et à ce moment-là, et à ce sujet, pardon, j'ouvre une parenthèse qui est la suivante. Je lance un appel à témoins. Je suis convaincu que dans cette région de l'Épange, il y a des gens qui savent la vérité. Et j'invite ces gens à briser le silence, à sortir du silence et à nous aider à faire éclore la vérité, parce que je rappelle quand même qu'il s'agit de l'assassinat d'un petit enfant de 4 ans, et je dis que c'est moralement monstrueux de se taire, alors que peut-être on a des révélations à faire.
Je vous remercie, merci infiniment Thierry Moser.
Merci Jacques.
Où en est l'affaire Grégory après la décision de la Cour d'appel de Paris jeudi dernier d'annuler la garde à vue, les propos tenus en garde à vue par Muriel Boll à l'âge de 15 ans, puisque ces propos, cette garde à vue avait été jugée anticonstitutionnelle. Mais nous avons entendu les commentaires des uns et des autres disant que et remarquant que la Cour d'appel n'avait pas annulé ce qui avait été dit avant cette garde à vue par Muriel Boll et ce qui avait été dit après. Et donc, comme, là je parle sous votre contrôle, Alain Hamon, parce que vous connaissez bien mieux le dossier que moi, mais en gros, ça veut dire, si on traduit ça en langage commun pour tout le monde, donc pour moi et pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que des personnes qui éventuellement auraient été impliquées dans l'affaire à cause des propos de Muriel Boll avant ou après sa garde à vue, ces décisions ne seront pas annulées.
Non.
Et non, ça veut dire aussi. Ces personnes peuvent être à nouveau donc mises en garde à vue dans
oui,
le dossier.
Oui, permettez-moi de prêcher aussi pour notre paroisse à nous journalistes. Oui, ça veut dire aussi qu'on peut continuer à parler de ce que Muriel Boll a déclaré à l'époque. Sinon, si tout avait été annulé, c'était terminé, on ne pouvait plus en parler.
On ne pouvait plus en parler.
Et voilà,
absolument,
exactement.
Absolument.
Donc, non. Elle a fait des déclarations limpides avant la garde à vue, limpides chez Jean-Michel Lambert. Il y a peut-être un truc qui sera fait si ce n'a pas été fait déjà. Les gendarmes qui l'ont entendu à l'époque, donc ils l'ont entendu en garde à vue, mais aussi avant, peut-être est-ce qu'ils ont été eux-mêmes entendus sur procès verbal par les nouveaux enquêteurs, ou ils vont l'être pour expliquer ce qu'elle leur a dit avant sa mise en garde à vue.
Alors justement, on va parler de ça parce que en préparant l'émission de ce soir, je me suis souvenu qu'en octobre 2014, nous avions déjà proposé à nos auditeurs une spéciale heure du crime sur l'affaire Grégory, l'interminable feuilleton de l'affaire Grégory, et nous avions comme invité ce soir-là le colonel Étienne Sesma. À l'époque, c'est-à-dire en 1984, il était chef de la compagnie de gendarmerie d'Épinal. Il s'est beaucoup exprimé sur l'affaire plus tard dans un livre qu'il a fait paraître aux éditions Belfond en 2006, « Les deux affaires Grégory ». La sienne et ce que l'affaire est devenue après l'éviction, on peut le dire, de la gendarmerie. Et il expliquait, le colonel Étienne Sesma, dans l'heure du crime d'octobre 2014, il expliquait quels étaient les éléments, justement, en plus des aveux de Muriel Boll, qu'il avait conforté à l'époque dans sa suspicion concernant la culpabilité de Bernard Laroche. Écoutez.
Ce qu'il est important déjà de souligner concernant l'audition de les aveux de Muriel Boll, c'est que ces aveux ne sont pas secs, ils sont entourés de 6 autres témoignages de personnes, des conducteurs du bus scolaire,
collégiennes,
qui viennent confirmer, conforter son témoignage. Si avec elle, pour nous dire écoutez, j'avoue, j'étais avec lui, on pourrait se poser des questions avec ses rétractations. Ouais. Il y a deux au moins de ses amis, collégiennes de sa classe, qui ont affirmé et répété devant les magistrats de Dijon, le président Simon puis le président Martin, qu'elle l'avait vu monter dans une voiture décrite comme étant celle de Bernard Laroche.
Comment vous voyez, vous, un jour la vérité apparaître dans ce dossier? Vous pensez que c'est encore possible?
Alors, oui, je pense qu'il pourrait y avoir des gens qui ont envie de soulager leur conscience. Il n'y a pas 36 témoignages, mais on a quand même deux témoignages essentiels, directement rapprochés au fait. C'est le témoignage de Muriel, savoir quand elle a dit la vérité, et est-ce qu'elle reviendrait un jour sur ses rétractations. Et puis on a le témoignage de Madame Claudon, vous savez, la fameuse fermière qui a dit à plusieurs reprises à une dizaine de personnes avoir rencontré Bernard Laroche sur les lieux de l'enlèvement.
Voilà ce que disait, c'est très intéressant à posteriori de réécouter cet extrait de l'interview dans l'heure du crime du colonel Étienne Sesma. Alors, Alain Hamon, je voudrais maintenant vraiment votre sentiment, parce que on a parlé là, à l'instant, Sesma citait le juge Simon. À un moment après l'éviction du juge Lambert, même s'il a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une éviction, enfin bref, le dossier a été repris par un certain nombre de magistrats, dont à un moment ce juge Simon, dont j'aimerais bien que vous me parliez, parce que il a repris l'affaire à zéro.
Ah ben non seulement le juge Maurice Simon a repris l'affaire de zéro, mais tous les témoignages dont parle Étienne Sesma dans cet enregistrement que vous venez de passer, il les a actés, il a réentendu ces gens-là, il en a même réentendu d'autres. J'aurais tendance à dire que même si, comme le souhaitent Maître Moser et les avocats de Christine Villemain et de Jean-Marie Villemain, et même eux-mêmes, les parents de Grégory, malgré ce qu'ils peuvent demander et malgré les actes nouveaux qui seraient faits, j'aurais tendance à dire que depuis le travail du juge Simon, tout est dans le dossier dans cette affaire. Tout est dans le dossier. Et d'ailleurs, les enquêteurs qui ont repris le dossier en 2008 pour nous annoncer en 2017 qu'il allait y avoir des mises en examen, des placements en garde à vue, etc., etc., ces enquêteurs, contrairement à ce qui a été écrit, ils ne se sont pas basés sur les petits carnets du juge Simon que son fils leur avait remis. Non, ils se sont avant tout, bien sûr qu'ils s'en sont servis de ces petits carnets, mais ils se sont surtout basés sur la procédure qu'avait établie, l'ensemble de la procédure qu'avait établie le juge Maurice Simon avec ses gendarmes. Et il y a tout là-dedans, il y a tout. Je veux bien qu'on amène encore des choses. Oui. Maître Moser demande à ce qu'on amène encore des choses. Mmh. Tant mieux, oui. Surtout si c'est positif. Oui. Mais j'aurais tendance à dire, et notamment au niveau des témoignages que Sesma évoquait tout de suite, tout est dans le dossier, on connaît tout. Mmh. Et la seule chose qui a été révélée en 2017, c'est que le juge Simon parlait déjà d'un couple.
Il parlait, lui, il avait cette notion du crime collectif.
Complètement. Ouais. Ah mais complètement.
Et parce que c'est ce qui ressort en
numéro 1. Et d'ailleurs, à l'époque, même s'il ne parlait pas beaucoup aux journalistes, il a parlé à quelques journalistes, dont je faisais partie, en tout cas indirectement, parce qu'on était un petit groupe à travailler tous ensemble, et il n'a jamais voulu nous donner de nom. Mais le crime collectif, il nous l'a décrit. Il a décrit Bernard Laroche et ce que Bernard Laroche avait pu faire, Muriel Boll et ce que Muriel Boll avait pu faire, puis d'autres personnes de la famille dont il imaginait déjà que Bernard Laroche leur avait remis l'enfant, que Bernard Laroche n'avait fait que l'enlever, Grégory, et qu'il n'était pas allé plus loin. Le problème du juge Simon, c'est que malgré toutes ses immenses qualités, eh ben lui aussi s'est laissé un peu entraîner à un moment donné par la folie de ce dossier, et il a parlé à deux ou trois journalistes, mais vraiment officiellement, quoi, je veux dire. Oui. À certains d'entre nous, il parlait officieusement, mais deux fois au moins, il est allé un petit peu trop loin, et ça a jeté reproché un peu le discrédit sur ce qu'il a fait. Puis surtout, il est tombé très très malade, et en plus, il se souvenait même plus de la procédure, de ce qu'il faisait, il se souvenait même plus des gens qui l'entouraient pour la plupart d'entre eux.
Et c'est quelqu'un qui a été un pilier important.
Ah mais complètement, je le répète, depuis le juge Maurice Simon, à mon avis, j'ai repris de nombreuses fois tout son travail, puisque moi, pour RTL, c'est beaucoup le travail de Maurice Simon que j'ai suivi, en reprenant tout ça, je m'aperçois que ce que l'on a appris en 2017, c'était dans le dossier déjà, et maintenant, aujourd'hui, c'est dans le dossier, et personne ne revient là-dessus.
Nous avons maintenant en ligne Monsieur Jean-Marie Bonnet. Bonjour, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes l'actuel procureur général près de la Cour d'appel de Montpellier. Et avec vous, j'aurais souhaité, si vous en êtes d'accord, revenir en 2008, lorsque vous êtes arrivé à ce poste, d'ailleurs, à Dijon.
Oui.
Pour vous, est-ce que je dis juste quand je dis que pour vous, l'affaire Grégory, à l'époque, c'était un des dossiers déjà les plus célèbres, évidemment, en France. Mais comment vous êtes entré dans l'histoire, si j'ose dire ?
Ah bah, l'affaire Grégory est un dossier célèbre que je ne connaissais que par ce que j'avais lu dans la presse et entendu sur les médias. Hein, voilà. Oui. Donc, alors, je suis en fait, j'arrive à Dijon, c'était à peu près au mois de juin 2007, et très vite, je suis saisi d'une demande des conseils de Christine et Jean-Marie Villemain, qui me disent, voilà, est-ce qu'on pourrait pas, monsieur le procureur général, faire réouvrir le dossier, parce que peut-être que les progrès de la science permettent aujourd'hui de faire des analyses qui n'étaient pas possibles de faire auparavant. Voilà. Mmh. Alors c'est vrai que c'est très important à ce moment-là, parce que le procureur général est le seul qui puisse réouvrir un dossier qui a été clôturé par un arrêt de chambre de l'instruction, d'accusation à l'époque. Hein. Mmh. Voilà, c'était l'arrêt de 93. Il y avait déjà eu une première réouverture en 2000, très rapide, sur une question, il s'agissait d'examiner une question d'un timbre. Ouais. Et puis, ça avait été refermé, le dossier avait été refermé début 2001. Mmh. Voilà. Et donc, depuis 2001, effectivement, la prescription courait d'ailleurs. Hein. Ouais. La prescription de 10 ans à l'époque pour les crimes.
Et vous, vous dites que l'approche scientifique n'avait pas donné tout ce qu'elle pouvait donner, quoi.
Bah, c'est-à-dire, à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y en avait jamais vraiment eu, notamment en ce qui concerne l'ADN, hein, puisque la seule recherche d'ADN qui avait été faite, ça avait été en 2000, sur un objet, enfin donc un timbre, hein, c'est tout, qui n'avait rien donné. Ouais. Voilà, la question qui se pose donc, c'est de savoir si on peut, en exploitant les traces qui sont sur un certain nombre de supports, les vêtements, des lettres, des enveloppes, etc., si on peut remonter, comme on dit, des traces d'ADN, et puis, si possible, mettre un nom sur les dites traces d'ADN. Voilà. Ouais. Ça, c'est la première question qui se pose.
Ouais.
Est-ce que c'est faisable? Voilà. Et c'est ce dont je me suis assuré, d'ailleurs, avant de faire autre chose.
Oui, alors, autre chose, on en parle dans un instant, mais on va parler de ça, parce que, finalement, le 3 décembre 2008, donc on est à plus de 20 ans après les faits, alors que, évidemment, d'un côté, votre décision, elle relance l'espoir, évidemment, de Christine et Jean-Marie Villemain, et vous, le 3 décembre, vous ordonnez la réouverture de l'enquête, et le 22 octobre de l'année suivante, en 2009, vous annoncez la découverte de deux ADN identifiables qui ont été trouvés sur une lettre du corbeau et aussi sur les cordelettes qui ont servi à attacher le petit Grégory. Je vous redonne la parole dans un instant. On écoute un document RTL de ce jour-là, le 22 octobre 2009, les explications sur RTL de Myriam Alma.
Première information donnée par le laboratoire, les deux ADN sont de très bonne qualité. Il s'agit d'ADN nucléaire, ce qui permet une identification formelle. Le premier est masculin. Il a été retrouvé au milieu de la lettre de menace envoyée 9 mois après le meurtre de Grégory et 5 mois après la mort de Bernard Laroche. Le deuxième ADN est féminin. On ne peut pas dire formellement s'il est situé sur ou sous le timbre, mais selon le laboratoire, il y a une forte probabilité que ce soit la salive de la personne qui l'a collé, car la quantité de cellules retrouvées est relativement importante. Enfin, des bribes d'ADN ont été découvertes sur 3 cordelettes ayant servi à ligoter l'enfant. Elles sont de mauvaise qualité, mais permettent d'exclure des profils. Il ne s'agit pas des parents de Grégory. L'ADN ne correspond pas non plus aux empreintes retrouvées sur la lettre et le timbre.
Donc Jean-Marie Bonnet, au moins, si ces analyses n'ont pas permis d'aboutir à identifier un de ces ADN, en tout cas, ces recherches ont évité de fausses pistes.
Ah ben c'était ça aussi, les résultats les plus importants, enfin en tout cas dans cette première séquence, hein. Parce qu'en fait, il y a eu 3 vagues d'analyse au total, hein, entre 2008 et 2013.
Ouais.
Voilà. Mais effectivement, les résultats de la première vague qui viennent d'être rappelés sont effectivement très importants dans la mesure où ça permet de fermer un certain nombre de portes et, comme je l'ai dit à l'époque, de tendre le cou à certains canards. Voilà.
Oui.
Voilà. Et donc, alors... ça, c'était important, effectivement, de le faire. J'avais aussi, avant de requérir la réouverture, hein, parce que la réouverture, c'est la chambre de l'instruction qu'il a fait. Hein. Vous avez dit en décembre 2008, moi j'avais requis la réouverture.
Hein. Ah oui, d'accord.
C'est un acte essentiel qui il n'y avait que moi qui pouvais la saisir. Hein.
D'accord. Oui.
Donc voilà. Et donc je l'avais fait quelques semaines auparavant. Voilà. Oui. Donc c'était important. Oui. Et la deuxième chose que j'avais fait qui était extrêmement importante, c'était d'avoir reçu les époux Villemain.
Oui.
Et avant de prendre mes réquisitions. Et parce que je voulais avoir un entretien avec eux. Et à l'issue de cet entretien, j'ai trouvé qu'ils avaient une recherche de la vérité, ouais, de manière construite et posée, qui nécessitait qu'ils soient soutenus par l'institution judiciaire, alors même que force est de reconnaître qu'ils n'ont pas toujours été très bien traités par la dite institution.
Exactement. Voilà. On va revenir là-dessus avec Maître Thierry Moser dans un petit instant. Je voudrais qu'on écoute un autre document RTL, parce que on va retrouver Monsieur Jean-Marie Bonnet qui nous rappelait l'importance de ces réquisitions qui ont permis quand même de ne pas enterrer l'affaire, d'une part, d'éviter des fausses pistes, d'autre part. Et puis, il n'y a pas eu que les recherches ADN. Mais concernant les recherches ADN, on disait tout à l'heure, on entendait un document avec Myriam Alma à partir ce qu'on avait trouvé le 22 octobre 2009. Donc ces deux ADN identifiables sur une lettre et sur les cordelettes. Et le 7 décembre 2009, donc c'est 2 mois plus tard, on trouve de nouvelles traces ADN sur la lettre cette fois. Sur la lettre de revendication de l'assassinat de Grégory. On en reparle dans un tout petit instant, on écoute les explications que donnait à l'époque sur RTL notre correspondant Dimitri Ramlov.
Jusqu'à présent, des traces ADN avaient bien été retrouvées sur les cordelettes qui avaient permis d'attacher les pieds et poings du petit Grégory, sur son anorak et sur une lettre du corbeau envoyée à l'été 1985, mais jamais sur un document aussi capital. Alors, des traces ADN sur la lettre de revendication de l'assassinat ouvrent l'espoir d'en connaître un jour son rédacteur, mais l'avocat des parents de Grégory, maître Thierry Moser, ne veut pas pour autant céder à l'euphorie.
Biomnis, qui examinait ce document capital, n'est-ce pas, indique avoir décelé 3 ADN, un ADN féminin majoritaire et exclusion totale et sans ambiguïté de Christine Villemain. Alors, il faut raison garder, c'est un élément sacrément important, mais nous ne savons pas si ça nous permettra d'aller jusqu'au but final qui est la vérité absolue dans ce dossier. Ça, je n'en sais rien. Moi, je ne montre personne du doigt. Laissons pour l'instant travailler les scientifiques.
Alors, Jean-Marie Bonnet, il n'y a pas eu que l'exploitation scientifique à cette époque, parce que on a été très surpris en 2017 lors de ce coup de théâtre où on dit voilà, il y a des personnes qui sont maintenant mises en examen pour enlèvement suivi de mort, etc. C'est une conséquence quand même de la relance de l'affaire en 2008.
Alors sûrement, mais l'idée quand même en 2008, c'était véritablement de faire tout ce qu'on pouvait faire sur le plan scientifique. Je l'avais d'ailleurs dit à l'époque aux époux Villemain, en disant « Moi, je privilégie d'abord tout ce qui est recherche scientifique et ensuite, on avisera. » Alors, moi, j'ai pas eu à aviser puisque j'ai quitté le dossier en 2013 à mon départ de Dijon et comme vous l'avez justement rappelé à l'instant, les déroulements essentiels se sont ensuite passés en 2017. Voilà. Donc, mais effectivement, on a fait essentiellement un travail autour de l'ADN, des supports ADN, de la manière dont on pouvait ou pas identifier cet ADN. Il y a eu, bien sûr, une base de comparaison qui a été établie à l'époque avec de multiples prélèvements. Et ces prélèvements, malheureusement, comme tout le monde le sait, n'ont pas permis d'avancer de manière majeure dans la manifestation de la vérité.
Ouais. Et pour vous, c'est terminé, ça. C'est-à-dire que, parce que finalement, les progrès de la police scientifique continuent. On peut espérer encore.
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions-là. Il demeure que j'ai cru lire, et moi je ne fais que lire maintenant, dans ce dossier, j'ai cru lire qu'il y avait maintenant une possibilité, peut-être, qui est dans quelques temps, de démêler les traces de mélange complexe d'ADN. Or, je rappelle, et notamment, cela avait été dit au mois de décembre 2009, qu'on avait trouvé quelques traces de mélange complexe d'ADN sur différents supports, et peut-être que ça méritera, le moment venu, mais ce n'est pas à moi de me prononcer sur cette question, d'avancer dans cette direction qui reste encore une exploitation d'un éventuel progrès de la science.
Alors, j'ai une dernière question, mais je pense que vous avez aussi peut-être un devoir de réserve sur vos appréciations sur le fond du dossier. Mais on évoquait tout à l'heure avec Alain Hamon l'importance du juge Simon dans cette affaire. Vous qui connaissez très très bien ce dossier, qui avait beaucoup réfléchi. Est-ce qu'il était sur la bonne voie, cet homme-là? Est-ce que, parce que Alain Hamon disait, mais il y avait tout dans le travail du juge Simon, qui a été interrompu, bon, malheureusement, par la maladie et par la perte de mémoire.
Je ne peux pas répondre à cette question, à l'évidence.
Ouais,
vous l'avez très bien.
C'est ce que je
vous l'avez très
aussi,
bien dit dans votre début de question, M. Pradel. Non. Et je crois justement, tout à l'heure, M. Hamon disait, c'est un dossier qui rend fou.
Ouais.
Eh bien justement, il faut raison garder dans ce dossier. Ouais. Il faut garder de la sérénité, du calme, du recul. Et en ce qui me concerne, moi j'ai toujours travaillé en équipe avec mon parquet général à Dijon. J'ai jamais été seul dans ce dossier, parce qu'il faut éviter effectivement de partir dans toutes les directions en se disant « ça y est, je suis celui qui va sortir l'affaire Grégory ». Ça, c'est véritablement l'erreur à ne pas commettre.
Alors, une vraie dernière question. Vous pensez que on peut avoir de l'espoir et que cette affaire va un jour aboutir à la vérité quand même ?
Ah ben, franchement, alors là, je le souhaite et je l'espère.
Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment de nous avoir donné votre éclairage sur ce dossier qui est loin, effectivement, d'être terminé. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Monsieur Jean-Marie Benet, donc, qui est maintenant procureur général de Montpellier. Alors, Alain Hamon, un exercice difficile, mais pour vous, c'est facile parce que vous êtes un maître du temps. En quelques mots, c'est-à-dire en gros, quoi, en 2-3 minutes, il y a eu des conséquences. On en parlait à l'instant avec M. Benet, qui lui disait c'était quand même l'aspect scientifique qui m'importait. Mais c'est à partir du moment où les recherches ont repris qu'on a découvert en 2017 ce fameux rapport de la gendarmerie qui démarrait nous sommes en mesure de...
48 pages.
Oui, 48 pages. Nous sommes en mesure de considérer que Bernard Laroche était vraiment celui qui a enlevé l'enfant.
Oui, c'était assez fort d'ailleurs.
Et Bernard, un petit peu plus loin dans ce document, on trouvait des références à... au logiciel Anacrim.
Oui. Alors les résultats du travail fait avec le logiciel Anacrim, c'est 556 pages, je crois. 556 pages, et les 48 pages dont je viens de parler, c'est uniquement la synthèse de tout ça, présentée au magistrat de Dijon. Anacrim, oui, mais alors, je vais avoir l'air de me répéter, c'est peut-être l'âge, mais en tout cas, Anacrim, en fait, c'est un logiciel qui compile des informations déjà en possession des enquêteurs.
Des noms, des photos, des lieux du crime, des emplois du temps, donnés par les témoins qui ont été auditionnés.
Et quand je dis que je vais me répéter, c'est qu'est-ce qu'ils ont compilé ? Ils ont compilé, bien sûr, les tout débuts de l'enquête, puis les suites de l'enquête, c'est-à-dire le travail de Sesma et de ses hommes.
Oui.
Bon, le travail de Lambert aussi, d'ailleurs.
Bon. Bien sûr.
Puis ce qui a suivi.
Oui. Bon. Mais l'idée, c'est de prioriser, comme disent les spécialistes.
Le moins qu'on puisse
dire, cette information est plus importante.
Oui, enfin, sauf que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à partir du moment où on livre 550, enfin, presque 560 pages d'analyse, je ne sais pas où est la priorité, mais il faut aller la chercher. De toute façon, il faut aller la chercher dans ces 560 pages.
De toute façon, il n'y a pas un logiciel qui remplace les enquêteurs non plus. Hein,
voilà, absolument, absolument. Car, justement, qu'est-ce qu'ils ont mis dans Anacrim, notamment ? Ils ont récupéré des témoignages. Et tout à l'heure, on en parlait justement de tous ces témoignages.
Oui.
Ils ont récupéré des témoignages de l'époque qui étaient un petit peu passés par pertes et profits. Alors, on en avait parlé dans l'arrêt de 93 dont M. Benet a parlé tout à l'heure. On en avait parlé en 93 au procès de Jean-Marie Villemain. Enfin, tout ça, c'était resté un petit peu dans le flou, d'autant que à l'audience, c'est toujours un peu chaotique parce que les uns disent quelque chose, les autres reviennent dessus, etc. etc. Bon, là, le logiciel Anacrim et les enquêteurs de la section de recherche de Dijon, ils ont pris tout ça. Et c'est vrai qu'au résultat, on s'aperçoit que, en effet, il y a quand même des déclarations de l'époque de témoins qui mettent sérieusement en cause pas mal de personnes. Et puis, il y a aussi, disons-le, c'est peut-être ce qui fait un peu défaut en 2017 au travail des magistrats de Dijon et des enquêteurs de la section de recherche de Dijon, il y a aussi une construction intellectuelle. Notamment pour les deux personnes, le couple, que l'on imagine récupérant Grégory, lorsque Bernard Laroche le leur amène, et puis se retrouvant avec Grégory mort, ou par accident, ou alors qu'il le tue. Et là, c'est vrai que c'est une construction intellectuelle sur l'environnement de ces gens-là, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils n'ont pas pu faire, avant, après, pendant. Mais voilà, Anacrim, ils ont fait tout ça, c'est-à-dire que 560 pages.
Dans quelques secondes, nous allons retrouver Maître Thierry Moser, l'un des avocats donc de Jean-Marie Villemain. Je voudrais qu'on termine cette émission avec ce document RTL qui remonte au 16 décembre 1984. Bernard Laroche clame son innocence depuis sa prison de Nancy. Le père du petit Grégory, Jean-Marie Villemain, n'a aucun doute sur sa culpabilité. Écoutez son témoignage recueilli à l'époque par le journaliste d'RTL Jean-Michel Bézina.
Moi, oui, j'ai l'intime conviction que ce soit Laroche, pas de problème. Il ne faut pas oublier le témoignage de la Muriel qui est vraiment précis sur certains niveaux. Et puis le témoignage de la Isabelle qui dit que Muriel a vu Laroche jeter un sac bleu à la Vologne. Et puis un témoignage qui n'est pas tellement important, mais pour nous compte quand même, c'est que la Marie-Rose, la sœur de Marie-Ange, qui a quand même dit sous PV qu'elle ne comprenait pas le comportement de sa famille. Dans une affaire comme ça, ne cherche pas à savoir la vérité.
Mais Bernard Laroche, il vous en voulait?
Il n'a pas à m'en vouloir, j'ai jamais rien eu avec.
Est-ce que vous pensez que quelqu'un l'a poussé à commettre l'irrémédiable?
Moi, personnellement, je pense qu'on a dû le guider sur un cap, oui.
Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu irrité que l'on désigne un petit peu, du doigt maintenant, votre épouse?
C'est pas normal, mais de toute façon, il fallait s'y attendre, parce que, en dehors de la roche, ma femme comme alibi, qu'est-ce qu'elle a, elle n'en a pas. À part les trois personnes qui l'ont vu monter. Et puis, l'alibi qu'elle avait, c'était le gosse. Mais maintenant, elle l'a pu, c'est pas lui qui veut revenir pour dire ce qu'elle a fait.
Vous serez tranquille quand?
Je saurai toute la vérité.
Et cette vérité, selon vous, elle est de quel côté? Vers vos frères? Vers vos sœurs? Ou vers d'autres personnes?
La vérité est dans la famille, de toute façon. Je ne veux pas donner de détails, mais la vérité est dans la famille, sûr.
Maître Thierry Moser, cette détermination de Jean-Marie Villemain, il l'a toujours aujourd'hui. Et Marie-Christine toujours, aussi.
Toujours. Combativité admirable de Christine et Jean-Marie depuis plus de 30 ans. Et je pense personnellement, j'en suis convaincu, que cette combativité sera récompensée, parce que s'agissant de l'issue de cette procédure, je suis confiant, je suis optimiste. Je vois d'ailleurs que Monsieur Bosque, procureur général de Dijon, a tenu des propos allant dans le même sens, optimisme et confiance. Et c'est sur ces mots que je souhaite clôturer mes propos.
Merci, merci infiniment. Merci à tous les invités de l'heure du crime ce soir. Monsieur Jean-Marie Benet, qu'on entendait il y a un instant. Alain Hamon, bien entendu, depuis le début, qui a suivi ce dossier, notamment pour la rédaction d'RTL pendant de très nombreux mois et années. Et puis à l'instant, donc, Maître Thierry Moser, l'émission est maintenant terminée.
Sur RTL.fr, prenez le temps de découvrir notre offre de podcast inédit et gratuit, RTL Originals.
Science, internationale, crime, politique et sexo, des dizaines de podcasts sont à votre disposition.
Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter l'ensemble des émissions de RTL 24h sur 24 sur RTL.fr.